Bon, merci Monsieur le Président. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter des excuses à vous tous et aux deux organisateurs de cette rencontre de n'avoir pu la rejoindre que bien tard, en raison d'engagements pris de longue date. Alors, je le regrette d'abord de façon très égoïste parce que la qualité de l'accueil est absolument remarquable et j'aurais aimé plus en profiter. Et je le regrette également pour une raison scientifique, c'est que mon propos ne bénéficie donc pas de la richesse des échanges d'hier et d'avant-hier. J'espère qu'il n'en résultera pas trop de redites. Il est vrai que mon exposé, à la différence de ceux qui ont précédé, va porter sur des sources du 19e et du 20e siècle. Mais l'idée dans une démarche historiographique est que ces sources viennent expliquer la façon dont on a lu, compris le droit public de l'ancienne France. Ce dont il s'agit ici, c'est une équation qui est établie entre les lois fondamentales d'avant 1789 et une hypothétique constitution coutumière de l'ancienne France, une constitution non écrite. Une première donnée à énoncer tient de l'évidence, c'est la transformation des contours du droit constitutionnel français depuis 1958 avec l'apparition du Conseil constitutionnel, 1971 avec l'extension du corpus de référence jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et puis enfin récemment l'introduction d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori par la question prioritaire de constitutionnalité. Bref, le droit constitutionnel, et je parle là de la matière, mais également de la façon dont on l'aborde, dont les savants l'abordent, le droit constitutionnel, qui était auparavant surtout une étude des textes constitutionnels et de leur fonctionnement, est de plus en plus devenu une étude de la jurisprudence constitutionnelle. Or, les historiens, qu'ils soient du droit ou qu'ils soient de vrais historiens, les historiens posent toujours au passé des questions du présent. Et on ne s'étonnera donc pas que on est recherché des précédents, voire des origines, à cette évolution du contrôle de constitutionnalité récente en droit français, qu'on est recherché un passé sous l'Ancien Régime. Bien entendu, les mécanismes de l'enregistrement par les parlements et tous les développements auxquels ils ont donné lieu fournissaient le point d'ancrage, et particulièrement la thématique des parlements gardiens des lois fondamentales. Ici, il y a, chez les historiens du droit qui se livrent à ce genre de travaux, une réponse à une véritable demande sociale, sinon du moins institutionnelle. Je renvoie à ce propos à deux articles de mon éminent collègue et très cher ami François Saint-Bonnet sur le Conseil de constitutionnalité avant la Révolution, Conseil de constitutionnalité a priori et a posteriori, avant la Révolution, deux articles qui sont parus, ce n'est évidemment pas un hasard, en 2008 et 2010, dans les cahiers du Conseil constitutionnel. On pourrait citer d'autres exemples tout à fait éminents. Cette assimilation, loi fondamentale égale constitution, à vrai dire, n'est pas nouvelle. Elle ne date pas du développement du contrôle de constitutionnalité. Elle est même fortement ancrée. Il suffit pour cela, pour s'en persuader, s'il était besoin, de consulter les manuels d'histoire du droit. Et sur ce point, je vais essentiellement parler des historiens du droit en posant un petit peu en postulat que les autres historiens, les vrais historiens, les historiens purs, ceux des anciennes facultés de lettres, comme on dit bêtement dans les actuelles facultés de droit, font confiance finalement aux juristes. On pourrait rentrer plus dans le détail et pister des circulations. Je pense en particulier à une articulation qu'il faudrait vraiment mettre en évidence entre le travail extrêmement matriciel pour les historiens du droit de François-Olivier Martin et puis celui très matriciel aussi pour l'histoire des institutions de Roland Mounier, au moins pour la période de l'Ancien Régime. Bref, une vulgate s'est fixée. Les lois fondamentales sont la constitution coutumière de l'ancienne France. Et les lois fondamentales, qu'est-ce que c'est ? Ce sont d'abord les règles de succession au trône, exclusion des filles, exclusion des parents par les filles, indisponibilité, catholicité, et puis les règles d'inaliénabilité du domaine royal, par commodité pédagogique, et puis je pense aussi par projection d'un impensé. Si c'est une constitution, on va mettre tout ce qui rapporte à la constitution. On trouve parfois agrégées aux lois fondamentales les règles de primogéniture, voire le fonctionnement de la régence, la majorité, la succession instantanée, voire le sacre, etc. Et ici, il y aurait sans doute à chercher également une influence des cérémonialistes américains. Bon, je ne développe pas cette analyse parce que je l'ai menée ailleurs. Et puis surtout, je vous renvoie à des travaux récents de mon maître Rigaudière, en particulier un article paru dans le Journal des Savants, dans la deuxième livraison de 2012. Et les amateurs iront goûter la sanglante note 20 de la page 285, où est dénoncé l'inconvénient d'un tel catéchisme constitutionnel, d'un tel dogme intangible, qui est présent dans tous les manuels d'histoire du droit et des institutions, et même présent dans certains travaux de recherche, des travaux de recherche très récents, soutenus par des très jeunes chercheurs qui n'ont même pas l'excuse de la sénilité pour ainsi radoter. Il y a un coût scientifique à cette assimilation, qu'explique Albert Rigaudière, c'est que, en renvoyant aux lois fondamentales comme constitution coutumière, on a négligé les lois constitutionnelles de la fin du XIVe siècle, et on a négligé l'étude sémantique du terme constitution dans les sources. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre. Ce qui, dans nos sources, est appelé loi fondamentale, ou plus souvent peut-être loi salique, et qui est exprimé par des ordonnances et des édits, nous avons décidé, nous, historiens, que c'était une coutume. Il y a sans doute une part de vérité dans cette assimilation, bien sûr, et une utilité heuristique dans cette assimilation loi fondamentale-constitution, mais comparaison ne sont pas raison, il ne faut pas aller trop loin, il y a un danger à vouloir tirer des conséquences identiques de choses qui ne sont pas tout à fait similaires. Projeter les concepts et les procédures actuelles sur des réalités passées privilégie une logique génétique, évolutionniste, si on veut, éclaire les origines lointaines, pourquoi pas, des institutions contemporaines, avec le risque très fréquent chez les juristes d'essentialiser les notions qu'ils utilisent, de les considérer comme parfaitement intemporelles. Et une telle démarche prive d'un autre intérêt d'un travail historique, qui est un travail comparatif, de confronter des modèles, des idéotypes qui ne fonctionnent pas de la même façon. Je pourrais l'illustrer par une citation d'un des articles de François Saint-Bonnet que j'évoquais tout à l'heure, sur le contrôle de constitutionnalité a posteriori. Je cite « Avant la Révolution, l'absence de mécanismes spécifiques d'exception n'est pas un indice de la faiblesse du contrôle a posteriori des lois du roi par les juges, mais au contraire sa force. Son pouvoir d'interprétation est en effet si vaste qu'il peut se passer d'accepter formellement la loi, de même que son pouvoir de neutralisation est si puissant qu'il peut faire l'économie d'un mécanisme d'abrogation. » Donc la procédure n'existe pas parce que ça marche tellement bien qu'on n'en a pas besoin. Je crois qu'il y a là quand même dans cette observation une nuance importante face aux tentations à assimiler trop étroitement les mécanismes de l'Ancien Régime et ceux d'aujourd'hui. Pendant longtemps, au contraire, c'est la vision extrêmement opposée qui a prévalu. Je cite ici l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. « Toute société dans laquelle la garantie des droits de l'homme toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Donc on oppose là l'Ancien Régime et le Nouveau sur ce plan. On a ici les deux faces de l'objet constitution qui sont révélées, un sens matériel, substantiel, en l'occurrence la séparation des droits, la séparation des pouvoirs, la garantie des droits, et puis un deuxième sens formel, la constitution avec un C majuscule, un objet particulier, une catégorie intellectuelle spécifique destinée à s'incarner dans un texte écrit, d'un statut propre et qui sera plus tard placé, bien sûr, au sommet de la hiérarchie des normes. Alors, les anti-lumières auront beau jeu de dénoncer cette construction et ce constructivisme constitutionnel des constituants, et ils pourront souligner qu'on n'a pas besoin d'un texte, d'une constitution au sens formel, pour avoir une constitution au sens matériel, pour que, je cite l'argumentaire, pour que la relation au pouvoir soit réglée. C'est ce qu'exprime par exemple Louis de Bonald en 1795. « La constitution d'un peuple est le mode de son existence. Et demander si un peuple qui a vécu 14 siècles a une constitution, c'est se demander si un homme de 80 ans est constitué. » Pour les adversaires de la Révolution, l'Ancien Régime avait une constitution, elle était coutumière, et pendant la décennie 1790, et pendant longtemps après, ils auront beau jeu de dénoncer la vanité des rédacteurs de constitution qui ne parviennent pas à donner, par leur seule raison, à la France un régime stable. Au contraire du volontarisme juridique, cette constitution coutumière, qui doit beaucoup au modèle anglais, bien entendu, était fille de l'histoire, encore une expression de Bonald, conforme à la nature des choses, et donc plus ou moins explicitement au dessein de la Providence, avec une majuscule. L'enjeu historiographique est donc ici de prouver que cette constitution existe, même si elle n'est pas écrite. Je cite Joseph de Maistre. Il y a donc une constitution, puisque la constitution n'est que le recueil des lois fondamentales et le roi ne peut toucher à ces lois. Une fois qu'on a prouvé l'existence de cette constitution par l'existence des lois fondamentales, on est dispensé d'en préciser le contenu de façon exhaustive. Joseph de Maistre, ainsi, regroupe sous ce terme beaucoup de choses différentes, y compris le rôle des magistrats comme dépôt des lois, y compris la participation de la nation à la législation, que Maistre qualifie de, je cite, « moins qu'une puissance co-législatrice et plus qu'un simple consentement ». C'est un exemple de ces choses qu'il faut laisser dans une certaine obscurité et qui ne peuvent être soumises à des règlements humains. C'est la partie la plus divine des constitutions. On a pu commenter ces auteurs contre-révolutionnaires en analysant une différence dans la façon d'aborder la Constitution entre le sens organique, qui est évidemment celui qu'ils retiennent, et donc on n'a pas à décrire tous les organes, il suffit de dire que ça existe pour se rassurer, et puis le sens qui serait le sens contemporain, un sens normatif. On pourrait multiplier ainsi à foison les citations pour démontrer que le contenu ne fait absolument pas consensus. C'est déjà le cas, hein. Il y a un texte très fameux de 1788 où le Parlement de Paris énonce ce que sont les lois fondamentales. On y trouve ce qu'on attend, c'est-à-dire les règles de dévolution de la couronne. On y trouve ce qui arrange le Parlement de Paris, l'inamovibilité des magistrats, l'enregistrement des ordonnances, le consentement des États à l'impôt. Et on n'y trouve rien sur ce qui est dans les manuels d'histoire du droit aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion du domaine royal. C'est là toute l'ambiguïté de cette notion de loi fondamentale, qui est à la fois un support pour la monarchie, qui la légitime, et en même temps, qui est un outil d'opposition pour la brider. Bon, je passe sur toute une série d'exemples pendant la période révolutionnaire et pendant une part du XIXe siècle, chez des auteurs qu'on va qualifier rapidement de réactionnaires, bon, des ultra-royalistes, ensuite des légitimistes. J'emploie bien ici légitimistes au sens strict de ceux qui sont favorables à la monarchie telle qu'elle a été pratiquée et telle qu'elle a été restaurée par Louis XVIII et peut-être plus encore par Charles X, et qui ensuite seront partisans de la branche aînée des Capétiens, en particulier contre les d'Orléans. Le contenu des lois fondamentales demeure donc incertain, je glisse vite, et peu à peu, les thèmes propres à cette première génération de contre-révolutionnaires, ces thèmes vont s'épuiser. En effet, il devient de plus en plus difficile de contester un régime, les nouveaux régimes, au motif que seul leur enracinement dans l'histoire peut donner une légitimité. C'est un argument qui se retourne contre ses promoteurs, et particulièrement à partir du moment où la Troisième République s'enracine. Le légitimisme tend à s'éloigner de l'action avec l'exil de l'intérieur, se réoriente peut-être vers le catholicisme social. Et puis, enfin, vous le savez, le prétendant meurt en 1883. Le petit-fils de Charles X, le comte de Chambord, meurt, laissant les légitimistes orphelins. Certains se réfugient dans le mysticisme survivantiste et beaucoup se rallient au... mais se rallie au fusionnisme, c'est-à-dire adopte la branche Orléans, les descendants de Louis-Philippe, comme les héros de leur cause. L'action française, qui va exercer un rôle complètement hégémonique, une fonction complètement hégémonique sur les monarchistes français dans la première moitié du XXe siècle, va tout à fait dans ce sens. Et il y a chez Maurras, des phrases extrêmement nettes pour dire qu'il ne s'agit absolument pas de revenir aux lois fondamentales de l'Ancien Régime, que tout ça, c'est un facteur de division et qu'il ne faut surtout pas s'en occuper. Ça n'a aucun intérêt pratique. Vous savez que Maurras est un positiviste dans la lignée d'Auguste Comte. J'ai d'autres traces, au-delà de cette école de pensée, j'ai d'autres... Vous voyez, hein, je me livre à l'exercice toujours difficile de la preuve négative, mais d'autres preuves, d'autres indices que les lois fondamentales, c'est pas important dans l'historiographie du XIXe siècle. Je suis allé regarder les grandes fresques, comme on les faisait à l'époque, les grandes fresques historiques, Anquetil, Guizot, Michelet, Henri Martin, Lavis. En quelques points, en particulier deux, le traité de Troyes d'un côté, 1420, et puis le traité d'Utrecht de l'autre, Il y a les enjeux, hormis peut-être un petit passage de Henri Martin, les enjeux diplomatiques sont éclairés, etc. La question, par exemple, de l'indisponibilité de la couronne de France n'est pas soulevée par ces auteurs. Ce n'est pas un thème important. Un troisième corpus, toujours pour rapporter cette preuve négative, est donné par les écrits des historiens du droit, proprement dit, au XIXe siècle. Par exemple, la table de la Revue historique de droit français et étranger, créée en 1855, les premiers ouvrages synthétiques, les grands manuels sur l'histoire du droit français. Jamais on ne trouve d'entrée loi fondamentale, jamais on ne trouve de présentation des lois fondamentales correspondant à ce qu'on trouve dans les manuels d'aujourd'hui. Alors il y a à cela plusieurs raisons. La faible place du droit constitutionnel dans l'enseignement, dans les débats doctrinaux, l'influence de la recherche allemande qui oriente sur d'autres objets, en particulier les coutumes. L'histoire du droit français se développe sous l'influence de l'école historique du droit allemande, et puis aussi le statut propre à l'histoire du droit au XIXe siècle, qui est une histoire du droit en dehors des facultés de droit, et une histoire du droit critique. Or, dans les facultés de droit, on enseigne essentiellement l'exégèse, le culte du code civil, l'histoire du droit est plutôt libérale, bref, elle n'est pas portée à s'intéresser aux lois fondamentales, constitution de l'ancienne France. Un point, cependant, fait exception dans cette linéarité. Alors, là, je demande un tout petit peu d'attention parce que les choses fonctionnent complètement à front renversé. En 1713, nous sommes d'accord au traité d'Utrecht pour mettre fin à la guerre de succession d'Espagne. Philippe d'Anjou, c'est-à-dire Philippe V d'Espagne, renonce pour lui et ses descendants au trône de France, à ses droits à succéder au trône de France. Il s'agit d'éviter qu'il y ait une union dynastique entre la France et l'Espagne et la constitution d'une superpuissance qui, évidemment, ne plaisait pas à l'Angleterre. Philippe d'Orléans, le futur régent, avait, lui, pour préserver ses droits sur la France, fait la renonciation inverse en disant « Moi, je ne veux pas devenir roi d'Espagne, je refuserai toujours de devenir roi d'Espagne. » Au XIXe siècle, je ne l'apprendrai à personne ici, Ferdinand VII a aboli la loi salique pour la succession espagnole et a rendu donc sa fille Isabelle apte à lui succéder au détriment de Carlos. À ce moment-là, d'ailleurs, en 1830, le futur Louis-Philippe d'Orléans, le futur roi des Français, monte au créneau en demandant au gouvernement de Charles X d'intervenir diplomatiquement, parce que vous comprenez bien que si un Bourbon d'Espagne n'est plus successible au trône d'Espagne, il redevient en quelque sorte disponible pour monter sur le trône de France, et ça ne fait pas l'affaire des Orléans. Et c'est là que les fronts se renversent. En 1847, Isabelle II est reine d'Espagne, et politiquement, elle est libérale face aux carlistes, qui sont beaucoup plus réactionnaires. La diplomatie de Louis-Philippe l'oriente vers les libéraux. Et il va même faire épouser à la sœur d'Isabelle le dernier de ses fils. Donc, il y a une union matrimoniale entre les Orléans français et la famille régnante en Espagne. Les Anglais revoient poindre le risque que quelqu'un se retrouve par les hasards des successions à la fois roi de France, enfin roi des Français et roi d'Espagne, monte au créneau et à ce moment-là, Louis-Philippe demande à quelqu'un qui a un rôle éminent dans les facultés de droit dans cette période, Charles Giraud, un historien du droit en quelque sorte, d'écrire un opuscule, un petit livre, pour défendre la position française. Et Giraud exhume, c'est assez accessoire dans son argumentation, exhume comme argument qu'en fait, les renonciations du traité d'Utrecht ne sont pas valables, qu'après tout, un Français pourrait très bien montrer sur le trône d'Espagne, mais ce n'est pas l'essentiel de son argumentation. Il s'applique surtout à démontrer que ça n'arrivera jamais et que les Anglais peuvent être tranquilles. Il est assez significatif de voir que cet ouvrage de Giraud va être réédité en 1997 par une maison d'édition légitimiste préfacée par un professeur d'histoire du droit de Rennes. Donc au total, si on accepte cette bombe à retardement que Louis-Philippe amorce contre les Orléans, le thème des lois fondamentales au XIXe siècle est historiographiquement très mineur. J'en apporte deux preuves pour finir. La première, c'est qu'il y a une thèse de lettres qui est soutenue à Montpellier en 1877 sous le titre « Les éléments de l'ancienne constitution française » où la question des lois fondamentales n'est quasiment pas abordée. L'auteur est Victor Canet, je le situe comme un réactionnaire mou, il doit être orléaniste. Et puis, surtout, et là j'abats mon atout majeur, Adhémar-Esmain, qui est une figure extrêmement importante de l'enseignement du droit à la fin du XIXe siècle, qui est le père fondateur, en quelque sorte, institutionnellement, par le sectionnement de l'agrégation, et scientifiquement, par deux manuels, le père fondateur du droit constitutionnel d'un côté et de l'histoire du droit de l'autre côté. Donc une figure extrêmement importante. Adhémar-Esmain, dans les presque 800 pages de son cours élémentaire d'histoire du droit français, première édition 1892, ne cite qu'à 11 reprises l'expression « loi fondamentale ». Il ne dit jamais ce que c'est. Et la plupart du temps, quand il cite l'expression « loi fondamentale », Esmain le fait dans des citations. Il emploie l'expression parce qu'il fait des citations qu'il utilise lui-même, il y a très peu recours. Je vous donne l'une de ces citations, vous verrez si on peut vraiment en déduire que les lois fondamentales sont la constitution de l'ancienne France. C'est de Voltaire. Voltaire écrivait déjà « la plupart des hommes qui n'ont pas eu le temps de s'instruire, les dames, les courtisans, les princesses même, qui ne connaissent la loi salique que par les vagues propos du monde, s'imaginent que c'est une loi fondamentale par laquelle autrefois la nation française assemblée exclut à jamais les femmes du trône. » Bref, le républicain Esmain, qui républicanise l'enseignement du droit, se situe complètement dans la ligne de 1789. La Révolution marque sur ce plan-là une rupture. Le droit constitutionnel qu'Esmain rédige ne veut rien devoir aux pratiques monarchiques. Et il s'en explique, donc ça, ce sont les éléments de droit constitutionnel, il s'en explique avec netteté dès le début de la préface. « J'ai cherché à dégager, à construire la théorie juridique des institutions fondamentales et des règles supérieures qui, au XIXe siècle, figurent nécessairement ou alternativement dans le droit constitutionnel des peuples libres de l'Occident. Je les ai ramenées à deux sources uniques. D'un côté, la Constitution anglaise, et d'autre part, la Révolution française et le mouvement d'idées qu'il a préparé. » Bref. La République, la Révolution hérite de l'État, mais ne doit rien aux pratiques monarchiques. On est là dans une perspective anti-tocquevillienne, en quelque sorte. Bref, à la fin du XIXe siècle, la Vulgate actuelle sur les lois fondamentales, constitution coutumière de l'ancienne France, n'est pas encore fixée. C'est à la génération suivante que ça va se faire. On peut le situer très précisément avec trois thèses d'histoire du droit. La première est la plus importante, André Lemaire, les lois fondamentales de la monarchie française d'après les théoriciens de l'ancien régime. La thèse de la thèse, c'est que les lois fondamentales sont la constitution de l'ancienne France. C'est un bon travail, André Lemaire, qu'on peut citer encore aujourd'hui sans honte. C'est un travail purement descriptif. À partir du moment où il a fixé cette équation, ensuite il décrit le contenu des lois fondamentales tel qu'il est passé ensuite dans tous les manuels. Je cite également Henri de la Perrière, de la succession à la couronne de France dans la dynastie capétienne, thèse soutenue en 1908. Mais pour ceux qui n'auraient pas bien compris le propos, la Perrière ensuite a tiré de sa thèse un ouvrage de vulgarisation, là qui est un ouvrage de militantisme légitimiste, sous le titre Le roi légitime, 1910. Et puis enfin, la thèse en 1914. Du prince Sixte de Bourbon-Parme, le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume. Pourquoi y a-t-il ce moment légitimiste dans l'historiographie des lois fondamentales ? Bon, vous avez compris quel est l'enjeu interne dans les querelles dynastiques entre les tenants de la branche d'Orléans et puis les tenants de la branche espagnole, mais je répète que les tenants de la branche espagnole chez les monarchistes français à ce moment-là sont très minoritaires. Je crois qu'il y a un rôle extrêmement important qui est joué dans l'historiographie par les articles absolument séminaux de Paul Violet, tout particulièrement « Comment les femmes ont été exclues en France de la succession à la couronne » dans les mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1893. C'est un article qui fait sauter une espèce de verrou. Bon, sans doute on le sentait avant, mais là maintenant on le sait, sur l'expression loi salique. On n'a pas appliqué la loi salique en 1316 ou en 1328, c'est une reconstruction a posteriori. Et le fait que le terme loi salique soit ainsi évacué permet de relire les textes autrement en plaquant cette équivalence loi fondamentale égale constitution. Violet n'a rien de légitimiste, lui, c'est un catholique dreyfusard, républicain modéré. Une autre raison, je crois, je l'ai énoncé tout à l'heure, qui fait qu'on s'intéresse à cette équivalence loi fondamentale égale constitution, c'est le développement du droit constitutionnel, de l'enseignement du droit constitutionnel dans les facultés de droit. C'est toujours bien pour les historiens du droit, je l'ai illustré par mon introduction, c'est toujours bien pour les historiens du droit de donner l'impression qu'ils sont des vrais juristes parce qu'ils s'intéressent à des choses qui intéressent aussi les historiens positivistes. Et puis la troisième raison, c'est la réforme de la thèse de droit en 1895. Avant 1895, la thèse de droit, elle se fait en deux parties, une partie droit romain et une partie, en fait, code civil, parce que c'est essentiellement des thèses de droit civil. Après 1895, le format de la thèse change et l'histoire du droit se développe avec l'agrégation comme discipline autonome. Donc on commence à faire des vraies thèses d'histoire du droit qui vont porter sur le Moyen-Âge ou l'Ancien Régime, qui était complètement négligé avant. Quant au fond, je ne détaille pas le contenu de ces trois thèses, vous avez bien compris ce dont il s'agit, il y a une espèce de continuité comme ça qui est établie. Alors je signale un point qui est d'une extrême importance, le maire découvre, redécouvre Jean de Tervermeil, qui est un auteur, après l'édition qu'en a donné Hotman à la fin du XVIe siècle, qui est un auteur, pour le peu que je sache, extrêmement peu cité. Au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, Tervermeil ne compte pas. Et tout à coup, avec le maire, il va repasser au premier plan. Donc nous avons Tervermeil qui explique que ce qu'on appelle l'indisponibilité de la couronne. Nous avons, en 1717, l'édit de Fontainebleau, par lequel le régent dit que les rois sont dans l'heureuse impuissance de modifier les lois fondamentales, ce qui permet de casser l'édit de Marly de 1714, par lequel Louis XIV rendait apte à succéder ces bâtards. Et donc, à partir de Tervermeil, en 1419, et le régent en 1717, ces deux éléments apportent la preuve irréfutable qu'il y a un principe éternel d'indisponibilité de la couronne qu'a toujours respecté la monarchie. L'établissement de ce principe sert essentiellement à invalider une autre monstruosité de Louis XIV, ce qui est présenté comme tel dans les fameux manuels. L'autre monstruosité de Louis XIV, c'est les renonciations du traité d'Utrecht. Louis XIV a violé les lois fondamentales pour ses bâtards, donc, et c'était pas bien, et on l'a puni. Donc il a aussi violé les lois fondamentales à Utrecht, et donc c'est pas plus valable. Et donc ce sont les Bourbons d'Espagne qui doivent être rois de France. Dans une certaine mesure, le processus se réactive. Alors, d'abord, il y a un fait historiographique pour lequel je n'ai pas d'explication complète, c'est le basculement à droite de l'histoire du droit dans la première moitié du XXe siècle. Avec Esmin, on est clairement dans le clan républicain. Pendant tout le XIXe siècle, on a une histoire du droit plutôt libérale, contestataire. Dans la première moitié du XXe siècle, l'histoire du droit devient très conservatrice. J'ai pas d'explication évidente. Ce qui est certain, c'est que le grand manuel matriciel que j'évoquais tout à l'heure, de François Omidyive et Martin, paru en 1948, consacre deux pages extrêmement intéressantes aux lois fondamentales, non pas à leur contenu, mais à leur statut. Lois fondamentales comme constitution de l'ancienne France, comme preuve de l'existence d'un ordre réglé, etc. Et ce processus que j'ai essayé de décrire pour le début du XXe siècle est réactivé à la fin du XXe siècle. Il se produit à ce moment-là une espèce de petit revival légitimiste, pour des raisons diverses. Question de personne, sans doute, joue un rôle important. Il y a la célébration du millénaire capétien qui est un petit peu un objectif dynamisant. Et on a, autour de Stéphane Rials en particulier, mais également Guy Auger, Frédéric Bluch, un certain nombre de personnes comme ça qui vont avoir une œuvre scientifique tout à fait respectable. Je ne porte pas ici c'est pas une critique sur la qualité des travaux. Simplement, ces gens-là ne se sont pas cachés également de leurs opinions et les deux, évidemment, entrent en résonance. Il y a un cas peut-être particulièrement emblématique, c'est celui de Jean Barbet qui consacre sa thèse, comme par hasard, Agent de Tervermeil, thèse publiée aux Nouvelles Éditions Latines, qui écrit dans une revue légitimiste qu'avait fondée Stéphane Rials, une revue qui s'appelait Mémoire, qui écrit un article sur la constitution coutumière de l'ancienne France. Cet article se retrouve, mutatis mutandis, enfin, on retrouve la substance de cet article dans une des toutes premières livraisons d'une autre revue créée par Stéphane Rials, Droit, une revue de culture juridique. Et enfin, Jean Barbet est l'un des auteurs d'un énorme succès éditorial, c'est le manuel d'histoire des institutions, publié dans la collection Droit fondamental, créé et dirigé également par Stéphane Rials. Donc on a là, vous voyez, une articulation entre des enjeux qui sont des enjeux, si l'on veut, d'opinion, savoir qui doit être roi de France, et une construction qui est une véritable construction scientifique. On est parfois un peu gêné face à cette espèce de répétition sans cesse. Il y a une thèse encore récente qui a été soutenue dans le même sens, avec quelqu'un qui ne cache pas non plus ses opinions légitimistes. On est parfois un peu gêné face à cette accumulation, parce qu'on finit par avoir un véritable écart quand on consulte les sources, et qu'en fait la construction ne marche pas. Un des exemples faciles, c'est qu'il n'y a pas d'entrée loi fondamentale dans les dictionnaires juridiques de l'Ancien Régime. Alors, bien sûr qu'on trouve mention de tout, hein, la succession au trône et tout ce que vous voulez, mais la catégorie loi fondamentale est tellement insignifiante pour les auteurs de dictionnaires au XVIIIe siècle qu'ils n'en font pas une entrée, à une exception près, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où loi fondamentale est définie comme étant le contrat social, ce qui n'est pas exactement ce qu'on trouve dans les manuels d'histoire du droit. Si l'on admet que des circonstances particulières à certains auteurs ont fait survaloriser certains éléments et certains documents, on peut proposer peut-être une autre approche, une autre démarche, visant à mieux les contextualiser. Je crois que plaquer la conception implicitement actuelle de constitution sur les réalités du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, a fini par empêcher de voir certaines choses. Alors, entendons-nous bien, à la fin d'un colloque sur les constitutions au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, je ne viens pas faire une déclaration iconoclaste fracassante. Il est bien entendu que, pour ce que j'en ai lu et ce que j'en ai entendu, les travaux qui ont été menés ici sont parfaitement exempts de ce n'est faux. Et bien au contraire, je crois que admettre les choses, essayer de saisir les choses pour partie telles qu'elles ont été pensées et présentées par les acteurs, et non pas en plaquant des définitions complètement exogènes, c'est un moyen de confronter les réalités actuelles à ce que j'évoquais tout à l'heure comme des idéotypes qu'on peut tirer du passé, en l'occurrence un fonctionnement du droit qui n'est pas le fonctionnement normativiste, positiviste, volontariste. Enfin voilà, le positivisme, le normativisme, voilà l'ennemi de l'historien du droit. Le droit d'autrefois fonctionnait autrement, et c'est ainsi qu'on peut saisir la conception qu'ils avaient de la Constitution. Un autrement que j'ai du mal à nommer, que j'appellerai avec Léo Strauss le droit naturel classique, hein, l'idée d'un droit qui va être révélé, déclaré, et non pas voulu. Un droit peut-être qu'on pourrait aussi appeler aristotélitomiste ou tout simplement viléien, hein, je ne sais pas. Je m'arrête là. En tout état de cause, un plaidoyer contre l'anachronisme. Je vous remercie.